Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes dans ce temps pascal et c'est un temps admirable de grande réjouissance, de joie spirituelle, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, durant ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension, est passé avec ses apôtres et ses disciples. Ce sont les mystères glorieux de notre rosaire. Bien sûr, n'oublions jamais les mystères joyeux et les mystères douloureux, mais ces mystères glorieux sont importants car ils sont le prélude du ciel. Il y a deux grands moments, peut-être les plus importants, de la vie de Jésus où le ciel a été sur terre. Les mystères joyeux, notre Seigneur Jésus-Christ, avec Notre-Dame et Saint-Joseph, 30 ans de vie cachée, 30 ans de bonheur parfait, puisque ces 30 années, on ne voit pas, durant ces 30 années, on ne voit pas les méchants, on ne voit pas les pécheurs autour de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'agressent, qui vont jusqu'à le blasphémer contre sa divinité, qui vont jusqu'à le crucifier. Donc 30 ans d'allégresse, de vie joyeuse, simple, un bonheur, un vrai bonheur, le bonheur anticipé du ciel, puisque Notre-Dame, c'est l'Immaculée, Saint-Joseph, c'est le Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon les docteurs de l'Église, a été purifié dans le sein de sa mère, du péché originel. C'est une convenance, en effet, que Saint-Joseph fut non pas immaculé comme Notre-Dame, mais dégagé du péché originel avant sa naissance, pour ainsi être présent dans son âme, extérieurement bien sûr, par sa protection de Notre-Dame et de notre Seigneur Jésus-Christ durant ces 30 années, mais dans son âme d'abord. C'est le gardien très fidèle qui est tout ordonné, orienté vers notre Seigneur Jésus-Christ, par Notre-Dame. Et Notre-Dame, bien sûr, c'est l'Immaculée. Donc ces 30 années de vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ ont été un bonheur extraordinaire. Le ciel sur terre. Le ciel sur terre. Après ce ciel sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ est venu évangéliser. Et au début de son évangélisation, et même juste avant son évangélisation, pour choisir les apôtres et s'attirer aussi 72 disciples, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert les tentations, la triple tentation du démon. Donc le combat commence. Et puis, il y a tout le carême, qui est un petit résumé de ces 3 ans de vie publique, où notre Seigneur Jésus-Christ est en butte aux pharisiens, aux scribes qui l'observent et qui veulent le mettre en défaut, jusqu'à, bien sûr, la crucifixion. C'est le mystère de la Semaine Sainte. N'oublions jamais ces combats chrétiens, mes bien chers frères. Ils sont importants. Ils sont importants. Et la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ces mystères joyeux, nous prépare au combat à venir. Combat contre le démon, contre le monde, contre nous-mêmes. Combat chrétien, pour être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc sont très importants ces mystères joyeux du rosaire pour fortifier nos âmes. Car en nous rappelant ces mystères joyeux, nous sommes invités à prendre force dans la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ pour les combats qui sont présents au lendemain de cette vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, ce ciel sur terre. Et puis, après le Vendredi Saint, il y a Pâques, la résurrection, et commence une autre phase de ces mystères de la vie chrétienne, et même c'est l'au-delà, c'est le ciel, la vie glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous épluchez un peu les évangiles qui relatent ces 40 jours de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres, et uniquement avec eux, on ne voit plus les ennemis de Jésus-Christ. Ils sont comme disparus. Et pourtant, ils sont présents. À part le fait très précis, noté par les évangélistes, le matin de Pâques, où les princes des prêtres font mentir les gardes, leur disant « Oh, vous direz que pendant que vous dormiez, ses disciples sont venus le chercher. » Donc ils sont venus chercher un corps mort et disant qu'il est ressuscité. C'est un grave mensonge. Mais saint Jean dit que, effectivement, ce mensonge, alors qu'il écrit l'évangile, dure encore. Jésus n'est pas ressuscité, au dire des princes des prêtres. Et les modernistes, bien plus tard, seront dénoncés par le pape Saint Pie X, disant que il y a comme deux Christ. Un Christ historique, qui n'est pas ressuscité, qui est bien mort, et un Christ de la foi. Donc les apôtres ont imaginé un Christ vivant, mais c'est une illusion, une fable. Vous voyez, comme les hérésies sont graves et se répercutent au fil des années et voire des siècles, puisque Saint Pie X dénonce cette hérésie des pharisiens. Il n'est pas ressuscité. Et le démon, comme il agit pour lutter contre notre Seigneur Jésus-Christ, si bien sûr nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Mais donc à part ce fait relaté par les évangiles, Saint Jean surtout, de ce mensonge des pharisiens, ces 40 jours de la résurrection entre le Pâques et l'Ascension, les ennemis de Jésus-Christ sont absents. Et pourtant, ils sont présents. Car après la Pentecôte, ils vont bien encore agir. Persécuter les apôtres, Pierre et Jean, les autres apôtres également persécutés, plus tard mis à mort, de façon sanglante. Mais c'est une parenthèse, montrant par là que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il veut que nous soyons avec lui ressuscités. Ne plus mourir dans notre âme. C'est là la grande leçon de Pâques, bien chers frères, et de ce temps pascal qui se poursuit sur 5 semaines, un peu plus. Plus que ça, parce que la Pentecôte encore, c'est le temps pascal, jusqu'à la Sainte Trinité, donc encore tout un mois. Mais encore tout le mois de mai, ça sera le temps pascal. Donc pratiquement 2 mois de temps pascal. Et donc, durant ce temps pascal, ce qu'il faut bien retenir, c'est la vie glorieuse de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne meurt plus, il est ressuscité, et il veut qu'avec lui, nous soyons ressuscités, ne mourant plus. Donc plus de péché. Une vie glorieuse ici-bas. Donc vous voyez, avec ces mystères joyeux et ces mystères glorieux, c'est la vie du ciel dans nos âmes. Après les mystères joyeux, il y a bien sûr donc ces 40 jours de carême qui représentent le combat chrétien pour arriver à Pâques, après bien sûr le mystère de la passion, la croix, la mort de Jésus-Christ. Et après la Pentecôte, on retourne dans cette vie de combat. Tout le temps après la Pentecôte, c'est une vie de combat, mais nous sommes armés par le Saint-Esprit dont Jésus-Christ vient de parler dans l'Évangile. Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui va vous apprendre toutes choses nouvelles. Non pas des nouvelles choses, mais de façon nouvelle. Parce qu'en fait, comme nous savons bien, les apôtres, même après la résurrection, ne comprennent pas le mystère du Christ. Et pourtant, Jésus est Dieu. Mais il faudra qu'il envoie le Saint-Esprit de vérité pour réapprendre aux apôtres d'une façon différente et complémentaire, non pas différente au sens de autre, mais complémentaire, ce que Jésus-Christ leur avait déjà appris. Et alors ils vont comprendre. Et on voit bien qu'avec la Pentecôte, c'est dans quelques semaines, mais je serai ici pour vous en parler bien sûr, donc dans quelques semaines je serai ici à Montaigu pour reparler de la Pentecôte, mais préparons-nous-y déjà à ce grand mystère. Les fidèles, les apôtres et les disciples vont recevoir abondamment l'Esprit Saint. Ils seront forts dans ce combat pour affirmer la foi de Jésus-Christ. Ils mourront pour affirmer cette foi. Ils ne mourront pas pour une idée, pour une idéologie, mais pour une réalité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ma vie. Il est ma force. Il est l'amour de ma vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis prêt à vivre et à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que les apôtres feront. Ils vivront, prêcheront, mourront pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toute la vie de l'Église. Ces 24 dimanches, et parfois plus après la Pentecôte, sont le cours de l'existence. Notre existence est le cours de l'Église durant ces 21 siècles qui nous séparent depuis, qui séparent de la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, chers frères, voilà un petit peu le résumé de la vie chrétienne à travers ces trois mystères, ces trois volets de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa vie cachée, sa vie douloureuse et sa vie glorieuse. Et Notre-Dame nous a appris le chapelet. Donc c'est très facile de nous rappeler ces vérités si faciles, mais si nécessaires, de la vie chrétienne à travers le rosaire. C'est le mois de mai, mes bien chers frères. Mois de mai, mois de Marie. Prions la Vierge Marie. Prions le chapelet. Au moins le chapelet. Et si nous pouvons plus, prions plus. Notre-Dame a donné à Fatima le moyen, l'ultime moyen de sauver le monde, de sauver nos âmes et de sauver le monde, le chapelet, le rosaire, l'ultime moyen. Et Sœur Lucie qui interrogeait le Père Fuentes en 1952, Père Fuentes, confesseur de Lucie et confident de Lucie également, interroger Lucie sur la puissance du chapelet. Lucie, de la part de Notre-Dame, de Fatima, lui répond « Notre-Dame m'a dit et me demande de dire au monde que le chapelet, le rosaire, est l'ultime moyen que Dieu donne au monde pour le salut du monde. » Et elle précise « ultime », ça veut dire « c'est le dernier ». Comme si on ne comprenait pas ce que ça veut dire « ultime ». Elle a précisé, ultime, c'est le dernier. Donc après, il n'y a plus. C'est l'ultime moyen. Prenons ce moyen. Ne considérons pas que ce moyen est un moyen puéril, enfantin, pour des personnes qui n'ont plus rien à faire, en retraite. Non. Un moyen pour tous les âges, quel que soit notre âge, enfant, adolescent, adulte, dans le travail, père et mère de famille, retraités, grabataires, ayant le chapelet dans nos mains. Pas seulement dans nos poches, ce n'est pas suffisant. Dans nos mains, pour égrener, jour après jour, notre chapelet. Monsieur Williamson répondait à une objection sur le chapelet. On lui disait, mais parfois on est bien distrait quand on récite notre chapelet. Il disait, oui, c'est vrai. Personne n'est à l'abri des distractions, quelles que soient les prières que nous fassions. Mais avec un chapelet, quand l'esprit est distrait, il est parti ailleurs, les mains continuent à égrener le chapelet. Et donc il y a le côté matériel d'égrener le chapelet. Si l'esprit part, le corps continue. Donc on prie. C'est rassurant, n'est-ce pas? Et c'est très simple. Donc même si nous sommes distraits, nous ne nous inquiétons pas outre mesure. Bon, c'est un peu inquiétant si on fait exprès, évidemment. Mais si on est distrait malgré soi, nos mains continuent. On ne sait peut-être plus très bien où on est. On ne sait pas si on a dit 9 ou 10 ou 11. Eh bien, tant mieux si on dit 11. Peut-être qu'il y aura au moins le 11e qui aurait été bien prié. Ne comptons pas. Ne comptons pas. Donnons nos âmes au bon Dieu à travers ces mystères joyeux, douloureux et glorieux, c'est toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne. Sans oublier, mes bien chers frères, les mystères douloureux. Car les mystères douloureux sont les mystères du combat chrétien. Très important. Ne faisons pas le saut de mouton entre joyeux et glorieux en disant douloureux, ce n'est pas pour moi. Si, c'est pour moi. Notre Seigneur Jésus-Christ a montré l'exemple. Les apôtres ont montré l'exemple. Ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez, pour terminer, je voudrais vous lire, ça sera votre méditation peut-être aujourd'hui si vous y pensez, ou à la relire, car vous pouvez lire dans vos missels, la collecte de ce quatrième dimanche. Ô Dieu, qui donnez à vos fidèles de n'avoir plus qu'un seul vouloir, accordez à vos peuples l'amour de vos commandements, le désir de vos promesses, afin que, parmi les multiples attraits de ce monde, nos cœurs soient fixés là où sont les vraies joies, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.